France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nouvel épisode aujourd'hui de notre série consacrée à la notion d'engagement. Et si c'était la capacité à se dégager, à penser dans l'écart, qui était parfois le plus essentiel, nous y réfléchissons à partir des figures de Arthur Koestler, Sebastian Haffner et Victor Klemperer. Créer une voie libre, libérer un passage, c'est cela que dit le mot « dégagement ». Eh bien, parfois, dans l'histoire sociale et politique, le geste le plus important, qu'il conduise vers d'autres engagements collectifs plus tard ou bien qu'il reste le seul geste entrepris, c'est l'effort pour se dégager, pour dégager son regard et sa pensée, hors de là où on est englouti, hors d'un quotidien de violence où l'on est tenté de fermer les yeux et de réaliser des compromis pour sauver sa peau, hors des autosuggestions rassurantes et des docilités que les régimes autoritaires savent si bien susciter. Se dégager, c'est rendre possible un point d'où voir, littéralement c'est cela, un point de vue. Parfois le dégagement se fait sans bruit, petit à petit, de jour en jour. Ainsi Victor Klemperer, discret professeur de lettres à l'université de Dresde, dans l'Allemagne des années 1920 et 1930, qui se met à noter dans un journal personnel les évolutions du langage autour de lui. Et aujourd'hui Klemperer est reconnu comme un penseur majeur de ce que le nazisme a fait à la langue. Plus jeune que lui d'un quart de siècle, le juriste allemand Sebastian Haffner quitte l'Allemagne pour l'Angleterre en 1938. Il a 31 ans. Dans l'exil, il raconte ce qu'est devenu l'Allemagne au quotidien entre 1914 et 1933. Il se souvient, il observe plein de petites choses. Au fond, c'est un engagement aussi, un engagement particulier que de se dégager ainsi par le regard et la pensée. Même si ce n'est pas toujours aussi spectaculaire que l'arrachement d'un Arthur Koestler au communisme après un emprisonnement dans une geôle de Franco dans les années 1930. De tout cela, nous parlons ce matin. Bonjour Frédéric Joly.
Bonjour.
Merci d'être avec moi en studio ce matin, où la grève complique un peu les choses. Vous êtes essayiste et traducteur, vous avez écrit un très beau livre sur Victor Klemperer, paru aux éditions Premier Parallèle. Bonjour Philippe Delara.
Bonjour.
La connexion est très bonne, merci d'être avec nous aujourd'hui, certes à distance. Vous êtes spécialiste de philosophie politique, maître de conférences émérite de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Vous vous intéressez à la manière dont les régimes autoritaires, voire totalitaires, entrent dans la sphère du langage, des sentiments, des pensées. Vous avez écrit sur Sebastian Haffner et sur Victor Klemperer. Et bonjour Phil Cassoar.
Bonjour.
Alors vous êtes au téléphone à l'ancienne avec nous, merci beaucoup. Vous êtes journaliste et écrivain, vous connaissez très bien l'itinéraire et l'écriture d'Arthur Koestler. Et je vous propose de commencer par lui, par Arthur Koestler, pour amorcer notre réflexion sur le fait de se dégager. Alors dans le cas d'Arthur Koestler, se dégager, c'est se dégager d'une cause alors même que c'est elle, cette cause qui l'a livrée au fascisme. Revenons à sa biographie. Il est né à Budapest en 1905. Il a fait des études d'ingénieur à l'école polytechnique de Vienne en 1920 et quelques. Un voyage en Palestine aussi, très attiré par le sionisme. En 1930, il est correspondant à Berlin, journaliste. Puis l'année suivante, il entre au Parti communiste allemand. Il devient agent du Comintern. Et là, je vous cède la parole. Comment se passent les années 30 pour Koestler ?
Oui. Alors, Koestler, c'est un homme de rupture successive. Donc, oui, la grande rupture, ça sera la rupture avec le communisme. Le communisme, il y a adhéré, en fait, parce que il est juif, Koestler. Il est né dans une famille juive de Budapest. Ce qui l'a amené d'abord à adhérer au sionisme, quand il a été en butte à l'antisémitisme à Vienne, pendant ses études, face au Burschenschaft des étudiants de droite, nationalistes, etc. Donc il est parti en Palestine, on l'a dit. Et quand il se retrouve à Berlin, au début des années 30, c'est une sorte de dandy, c'est un journaliste, un jeune prodige du journalisme, il roule en décapotable, etc. Mais il voit les chemises brunes dans la rue, il voit les bagarres entre les SA et les communistes, etc. Et puis il voit l'antisémitisme qui devient vraiment un danger mortel. Et donc, pour lui, à ce moment-là, les seuls capables de stopper le nazisme, ce sont les communistes. Et donc, il entre au parti, ça son adhésion est gardée secrète. Parce que on lui dit, voilà, camarade, tu vas garder la couverture d'un journaliste libéral, bourgeois, tu seras plus utile à la cause, comme ça, etc. Il part ensuite en URSS, il voyage là-bas pendant un an, et c'est au moment de la grande famine en Ukraine. Il est en Ukraine à ce moment-là, et il dit, il y a un mécanisme qui se met en place, comme il a fraîchement adhéré à la cause. Il y a une espèce de mécanisme qui fait que son esprit trie les faits en fonction du positif, du négatif, et tout ce qui est négatif est effacé dans son esprit pour l'instant. Et c'est seulement plus tard, évidemment, que tout ça va remonter. Et ensuite, il commence déjà à avoir des doutes sur l'ours entre les pattes de Staline. Mais là, il y a la montée partout du fascisme, du nazisme, la guerre d'Espagne qui éclate. Et là-bas, il se retrouve envoyé comme agent du Comintern par Willy Münzenberg, qui est le grand Manitou de la propagande communiste à l'Ouest, et qu'il envoie sous le couvert sous le déguisement d'un journaliste fasciste. Il se fait passer pour un journaliste hongrois fasciste et il enquête du côté des nationalistes. Et il est démasqué à Séville. Il gagne Gibraltar en quatrième vitesse. Bon, il retourne en Espagne. Je sais pas, parce que la vie de Köstler, c'est vraiment comme un film d'aventure. Il retourne du côté républicain, et à Malaga, il est capturé au moment de la chute de la ville par les franquistes. Et là commence ce qu'il appelle les 100 jours. C'est les 100 jours qui passent dans une cellule une cellule. Il est condamné à mort. En fait, on n'a jamais su s'il avait été réellement officiellement condamné à mort, mais en tout cas, il est sous la menace d'une exécution qu'on fait planer sur lui. Et c'est là qu'il va, il va se produire une rupture profonde, parce que il est dans cette cellule de la prison de Séville, et tous les soirs, il entend que des cellules voisines, on tire des hommes, on les traîne dans le couloir, il les entend crier « Madre, madre !» Ensuite, il entend les coups de feu du peloton d'exécution dans la cour de la prison, et évidemment, il est complètement secoué par ça. Et puis, il se rappelle les discussions avec les camarades communistes dans les cafés de Paris, par exemple, où on dit « Ah, oui, un tel, faudra le liquider, etc. » Et tout d'un coup, il comprend ce que ça signifie, vraiment. Liquider quelqu'un. Et d'ailleurs, plus tard, un de ses amis, qui est un poète hongrois qui s'appelle George Faludi, a dit que Köstler ne faisait rien comme tout le monde, il est devenu anticommuniste dans une prison fasciste.
Alors, c'est ça le cœur de mes interrogations, là, en parlant avec vous. Nous sommes dans un épisode sur la manière dont on se dégage d'un certain nombre de situations, qu'il s'agisse d'engagement, justement, dans l'occurrence le communisme pour Köstler, ou qu'il s'agisse d'une vie quotidienne où il y a de la violence et beaucoup d'angoisse, et un moment où on voit des choses, c'est ça aussi, se dégager. Oui. Dans le cas de Köstler, il se dégage de son engagement dans une cause. Et c'est très paradoxal, puisqu'en effet, il est dans une geôle franquiste, comme communiste, il est clairement antifasciste, et il va sortir du communisme aussi en sortant de cette geôle. Pouvez-vous nous expliquer un peu ?
Parce que tout d'un coup, il comprend qu'en fait, ce sont les deux faces d'une même médaille, d'une médaille totalitaire qui emploie la violence comme moyen pour parvenir à ses fins. Et il y a aussi Köstler insiste souvent sur l'aspect psychologique de l'engagement. Il dit qu'il y a une libido politique. Pour lui, son premier contact avec le communisme, il était encore adolescent à Budapest, et dans la rue passait un cortège funèbre. On enterrait des militants communistes qui avaient été tués par la police pendant une manifestation au son de la marche funèbre de Chopin. Et ça a été son premier contact sentimental avec le communisme. Et au fond, quand il se dégage du communisme dans sa cellule de Séville, c'est aussi avant tout d'une manière émotionnelle, parce qu'il pense qu'on va le fusiller. Il est là aux approches de la mort, et il est envahi par ce qu'il appelle le sentiment océanique. Ça vient de Freud, en contemplant.
De Romain Rolland avant Freud, oui.
Oui, vous avez raison. C'est Romain Rolland d'abord, oui. Et il trouve dans une espèce d'apaisement, en se disant bon, ben de toute façon, voilà, je vais me confondre avec le grand tout, etc. etc. Quand il sort, quand il est libéré, il revient à Paris et là. Il prononce une conférence à Saint-Germain-des-Prés devant un auditoire majoritairement communiste, et c'est à l'époque du procès du POUM. Le POUM, c'est un petit parti marxiste mais anti-stalinien en Espagne qui sert de bouc émissaire là-bas. Les staliniens ont organisé un procès, ils ont assassiné le leader du POUM, Andrés Nin, et Koestler refuse de condamner le POUM. Ils se battent pour la cause républicaine comme nous, et à ce moment-là, il voit tous ses camarades communistes se lever, quitter la salle. Et c'est la fin, c'est la rupture.
Je veux pas vous interrompre brutalement, mais oui. Le téléphone, c'est pas très simple.
Oui, je sais,
mais c'est un point qui est arrivé, c'est quelque chose qui est arrivé à beaucoup de gens de gauche, je pense à George Orwell en particulier, d'être engagé contre le franquisme, il y a les staliniens qui entrent dans la danse, et à un moment, Staline va lâcher une partie des républicains espagnols, et ça, c'est un drame qui va conduire pour beaucoup de militants de gauche à la fin de l'adhésion au communisme, en tout cas dans sa version soviétique. Est-ce que c'est la même chose ou bien c'est plus psychologique, c'est dans la geôle, quelque chose qui se passe, c'est la torture qu'il entend. Qu'est-ce que c'est exactement?
C'est vrai qu'il y a un parallèle entre Orwell et Koestler, parce qu'ils sont en Espagne à la même époque. Orwell, il est justement dans une colonne du POUM, et il est traqué ensuite par les staliniens dans Barcelone au moment des événements de mai 37, quand il y a des affrontements entre les anarchistes, les poumistes d'un côté, et les staliniens, les catalanistes de l'autre côté. Donc ce qui est intéressant dans le cas d'Orwell comme dans celui de Koestler, c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils vont devenir amis plus tard, et ils se définiront comme étant la gauche antitotalitaire, qui à l'époque était bien peu nombreuse. Leur itinéraire est parallèle. Ils ont compris que à ce moment-là, le fascisme et le communisme étaient les deux tenailles qui se refermaient sur l'Europe, et les deux dangers qui menaçaient l'Europe. Donc oui, bien sûr, c'est tout à fait. Et puis il y a tout. Orwell aussi insiste aussi beaucoup sur le côté psychologique, même dans 1984, quand on lit la façon dont on fait pression sur Winston Smith, on est très bon. Il faut dire, alors on va en arriver au zéro à l'infini, parce que
alors justement, merci, vous avancez exactement dans la direction qui nous intéresse, car c'est par un texte semi-fictionnel, le zéro et l'infini. Longtemps appelé le zéro et l'infini, j'ai l'impression que c'est un autre nom aujourd'hui, ça fait partie de mes questions, ce texte, que Koestler s'arrache. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Pourquoi a-t-il changé de nom? Y a-t-il des découvertes de manuscrits complexes qui se sont produites? Je vous écoute.
Oui, alors, le zéro et l'infini, en fait, Koestler l'écrit justement, juste après sa rupture avec le Parti communiste, donc il commence à l'écrire à l'automne 1938, et il va le terminer dans des circonstances dramatiques. Il le termine au printemps 1940, juste avant l'effondrement de la France sous les panzers nazis. Et entre-temps, lui-même, il a été de nouveau emprisonné, puisqu'on l'a arrêté. Les autorités françaises l'ont interné au tristement célèbre camp du Vernet d'Ariège, parce qu'il le considère comme, il le croit encore comme communiste, et donc il l'arrête comme suspect politique. Et Koestler écrit son manuscrit en allemand. À l'époque, il est avec une jeune anglaise qui s'appelle Daphne Hardy, qui est sculpteur, et c'est elle qui commence à traduire le manuscrit en anglais. Et la débâcle arrive, et dans la panique de la débâcle, Koestler fuit vers le sud, et il perd le manuscrit original, le manuscrit en allemand, qui s'appelle Sonnensfinsternis, que Daphné a traduit en anglais par Darkness at Noon. Le manuscrit original est perdu. Il y a le texte anglais qui a été traduit par Daphné. C'est ce texte qui va être publié en Angleterre pendant la guerre. Il s'en vend à peu près 2500 exemplaires en Angleterre, c'est très peu. Et ensuite, il est publié en France après la Libération. Et là, c'est un énorme succès de librairie. Et ça entraîne une polémique énorme. Évidemment, les communistes sont furieux. Ensuite, toutes les traductions du Zéro et l'Infini, la traduction française a été faite à partir de la traduction anglaise. L'édition allemande qui est parue en Allemagne après la guerre était également une traduction de l'anglais, donc c'était pas le texte original allemand, etc. Et pendant quasiment 80 ans, on pensait que le manuscrit original était perdu. Alors, ce que Stern avait complètement oublié, qu'il avait envoyé un double à un éditeur suisse. Et il y a quelques années, un étudiant allemand a découvert à Zurich, complètement par chance.
C'est fou, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Voilà, le double de Sonnenfinsternis. Et depuis, il a été republié, évidemment, l'original a été republié en Allemagne, il a été traduit en anglais et il a été traduit récemment par Olivier Manoni en français et republié. Alors, moi je trouve juste dommage, alors je comprends que pour des raisons commerciales, on conserve le texte, le fameux titre le Zéro à l'infini, mais oui. Je trouve que pour cette nouvelle édition, ça aurait valu la peine de titrer ça Les Ténèbres à midi, ce qui aurait renvoyé vraiment au titre original.
Oui, bizarrement, on a mis Dieu dans l'histoire, hein, le Dieu des ténèbres.
Non, c'est pas ça. Non. Le Dieu des ténèbres, c'est autre chose. C'est un texte que Koestler a écrit dans les années 50 avec d'autres communistes, ex-communistes qui avaient rompu avec le parti. Et c'est en anglais, ça s'appelle The God That Failed. Le Dieu qui a échoué. Et en français, on a appelé ça le Dieu des ténèbres. Mais c'est non, le Zéro à l'infini, le titre original, c'est Darkness at Noon. Ça vient d'un poème.
Entendu. On va écouter. Entendu. Ces précisions, je trouve, sur les manuscrits sont très émouvantes. Je vous propose d'entendre un extrait de Koestler. Alors, pour le coup, du Dieu des ténèbres de 1949, mais dedans. Il explique, au fond, pourquoi il y a cette expression, le zéro et l'infini, qui a longtemps été le titre de son manuscrit dont vous venez de parler. On écoute.
Je passais 4 mois dans les prisons espagnoles, à Malaga et Séville, la plupart du temps seul dans une cellule, attendant le peloton. Lorsqu'en juin 1937, grâce à l'intervention du gouvernement anglais, je fus libéré contre toute espérance. Je m'étais familiarisé avec une réalité toute nouvelle qui avait changé ma façon de voir les choses si profondément et si inconsciemment que pendant mes premiers jours de liberté, je ne m'en rendis même pas compte. J'avais connu la peur, la pitié et aussi quelque chose de plus difficile à décrire. Peur non point de la mort, mais de la torture et de l'humiliation. Mon compagnon de promenade, Garcia Tadel, fut soumis au supplice du garrot peu de temps après ma libération. Pitié aussi pour ces petits paysans d'Andalousie et de Catalogne que j'entendais appeler leur madre lorsqu'on les emmenait la nuit devant le peloton. Parfois, enfin, un état d'esprit que l'on décrit généralement en termes mystiques s'emparait de moi à l'improviste et m'inspirait une paix intérieure que je n'ai jamais retrouvée depuis. L'enseignement de ce genre d'expérience, lorsqu'on tente de le formuler, aboutit toujours aux grandes banalités éternelles. Que l'homme est une réalité, l'humanité une abstraction. Que les hommes ne peuvent être traités comme des chiffres dans les opérations d'arithmétique politique, car ils s'y comportent comme des symboles du zéro et de l'infini qui faussent toutes les équations. Que la fin ne justifie les moyens que dans d'étroites limites. Que la morale n'est pas fonction de l'utilité sociale et que la charité n'est pas un sentiment petit bourgeois, mais la force d'attraction qui maintient la civilisation dans son orbite. Rien ne paraît plus plat que de telles traductions verbales d'une connaissance incommunicable. Et pourtant, chacune de ces affirmations banales était incompatible avec ma foi communiste.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Philippe Delara, Vous connaissez le zéro et l'infini, le nom de... C'est par ce nom qu'on désignait le manuscrit qui maintenant est nommé différemment une fois l'original retrouvé, ce texte important, ce roman d'Arthur Koestler. Le fait d'appeler, comme on l'entend dans cet autre texte, le zéro et l'infini, l'humain en souffrance qui fausse toutes les équations, y compris celles qu'on nous raconte et que le régime autoritaire nous raconte et que l'engagement idéologique nous raconte. C'est assez joli de dire, enfin c'est assez troublant et émouvant d'appeler cette chose-là qu'on avait oubliée et qui est fondamentale pour se dégager, le zéro et l'infini. Qu'en pensez-vous ?
Ça correspond très très bien à la fois à l'expérience communiste, je veux dire l'expérience personnelle des militants, et le moment où on en sort. C'est-à-dire qu'il y a un élément, une dimension d'inhumanité foncière dans ce que j'appelle l'expérience communiste. Il y a de la camaraderie, mais il n'y a pas d'amitié. Il y a le vrai militant, le bon militant, c'est quelqu'un qui est militant 24 heures sur 24, et donc il n'y a pas de place pour la vie humaine. Et je pense que c'est ça qu'il découvre dans sa cellule et qui est pas la substance, mais je dirais le véhicule de sa sortie du communisme.
Pour vous, qui avez beaucoup travaillé sur les régimes autoritaires, ce n'est pas surprenant que dans une geôle fasciste, franquiste, Arthur Koestler soit aussi sorti du communisme. De ce communisme-là, en tout cas, qui à l'époque était, puisqu'il était engagé par le Comintern, le communisme stalinien soviétique.
Si je peux dire, il était dans une geôle fasciste, mais il aurait été à l'hôpital avec une maladie très grave. C'était un peu, ça aurait été la même chose. Ça l'a sorti du monde dans lequel il était. Jusque-là, englué à 100% sans s'en rendre compte.
Oui, c'est troublant et c'est très intéressant. Alors maintenant, je voudrais vous interroger, Philippe Delara, sur Sébastien Haffner. C'est tout à fait autre chose. Haffner n'est pas engagé politiquement. Haffner est allemand, il n'est pas juif. Il part néanmoins en exil en 38. Il a 31 ans. Qui est-il ? D'après vous, qui connaissez tous ces travaux, et pas seulement Histoire d'un Allemand, qui maintenant est bien connu, dans quel état d'esprit partir en exil et, si j'ose dire, se dégage-t-il ?
Alors, si je puis dire, le projet de dégagement, il est natif chez lui. Parce que, Histoire d'un Allemand, c'est un livre évidemment qui est sur le nazisme, mais c'est une autobiographie. Il raconte sa vie, y compris depuis son enfance. Il est né en 1907, donc c'est la première génération qui n'aura pas participé à la guerre de 14.
Oui.
Et il observe la société allemande et son évolution extrêmement rapide à partir des années 20, qui va mener au nazisme. Il y a une page extraordinaire, par exemple, dans l'histoire d'un Allemand, sur le sport. À un moment, il y a une vague d'engouement pour le sport en Allemagne, alors que ce n'était pas du tout un pays sportif, et il y voit les prémices de l'enrôlement par le nazisme, et ça correspond, c'est une idée très moderne qu'on retrouve dans les travaux de l'historien Georges Mossy sur l'esthétique nazie, l'importance du virilisme dans l'idéologie nazie. Et donc, son idée, c'est, à l'époque, c'est de rester en dehors de la conquête de la société allemande par les nazis. Mmh. Alors, et il décide de partir en 1938 quand il se rend compte que ça n'est pas possible.
Alors, on va écouter sa voix. Vous allez continuer, bien sûr, à nous expliquer comment il s'est arraché Et ce n'est pas du tout le même dégagement et le même arrachement qu'un Arthur Koestler. Ça n'a rien à voir. Et j'aimerais qu'on comprenne cela. Mais écoutons sa voix à Sébastien Hafner. Voici un extrait d'un entretien avec lui sur la télévision allemande en 1966.
Seule une minorité d'Allemands ont reconnu aux émigrés le fait d'avoir été des patriotes. C'est accorder bien peu de crédit au peuple allemand, je trouve, de se réjouir d'un tel résultat. Moi-même à l'époque, pardonnez-moi de faire intervenir ici mon cas personnel, je me suis longuement demandé comment agir pour rester digne face à moi-même. Si je devais partir ou rester. La réponse a été claire, il fallait partir. Je n'aurais pas pu me regarder dans le miroir si j'étais resté. Je ne peux pas me résoudre pour autant à me considérer comme un surhomme, à me placer plus haut que les autres sur l'échelle des valeurs morales. Ce sont ceux qui étaient dans la même situation que moi et qui ont pris la décision inverse, qui se sont moralement trompés. Quant aux soldats allemands, je ne dis pas qu'ils ont fait quelque chose de déshonorant, je dis simplement qu'ils ont fait quelque chose de mal, en choisissant ce qui était le plus facile. Ils ont cru accomplir leur devoir, mais quel devoir ? Le devoir imposé par un pouvoir absolu à un sujet qui n'a pas le droit de réfléchir, mais seulement d'obéir. Pour moi, il existe un devoir supérieur, c'est le devoir de penser, de l'homme, du citoyen. Et il y a une limite au-delà de laquelle l'homme a le devoir de ne plus obéir. C'est ce devoir-là que les émigrants ont accompli. Et bien entendu aussi tous ceux qui ont résisté en Allemagne. C'est à eux que je tire mon chapeau. Quant à ceux qui n'ont fait qu'accomplir leur devoir, je peux certes leur pardonner, mais je ne les laisserai pas m'accorder ou me refuser leur pardon.
Philippe Delara, c'est incroyable cette formule qui clôt l'extrait que nous venons de diffuser de Sébastien Hafner. Je pardonne à ceux qui n'ont pas, si j'ose dire, été héroïques. Et après tout, c'est humain aussi. Ceux qui sont restés et qui ont un peu servi le pouvoir en place à l'époque d'Hitler, sans peut-être faire des horreurs toujours, juste qui ont été là, qui n'ont pas été héroïques, c'est tout. Je leur pardonne. Mais qu'ils me pardonnent aussi. Mais pourquoi éprouvent-ils le besoin, Philippe Delara, de se faire pardonner lui pour la véhémence avec laquelle il a dénoncé, finalement, en décrivant, il a dénoncé l'ordinaire un peu lâche et un peu dégoûtant de l'Allemagne nazie?
À cette époque encore, il y avait en Allemagne, donc dans les années d'après-guerre, un préjugé négatif envers les gens qui étaient partis. C'est-à-dire que les Allemands ordinaires, donc pas ceux qui étaient engagés dans le régime, etc., se vivaient comme des victimes. Et donc, les gens comme Hafner, c'était des tirs au flanc qui avaient échappé aux épreuves que les Allemands restés en Allemagne avaient subies. Et justement, l'idée fondamentale d'Hafner, c'est que donc il c'est un patriote allemand. Vous savez que Sébastien Hafner, c'est un pseudonyme.
Je vous écoute, racontez-nous tout cela. Oui.
Alors, il a choisi ce pseudonyme en référence pour Sébastien à Jean-Sébastien Bach, oui. Et pour Hafner à Mozart, qui a dédié plusieurs œuvres, dont la fameuse 35e symphonie Hafner, au maire de Salzbourg à l'époque, qu'il avait soutenu. Et donc, c'est cette double référence à Bach et à Mozart, c'est-à-dire à la culture allemande, oui. C'est le nom qu'il a choisi. Et donc, toute sa vie consiste à la fois à vouloir sauver l'âme, si je puis dire, de l'Allemagne et à montrer que l'expérience nazie, elle, est inexcusable, impardonnable, et que l'Allemagne s'est complètement perdue dans cet épisode de 12 ans. Et c'est ça qu'il cherche par tous les moyens à expliquer à ses compatriotes. Sachant que, comme vous l'aviez dit, je crois tout à l'heure, il n'a pas publié ce livre.
Voilà, ça aussi j'aimerais que vous m'expliquiez, parce qu'il est interrogé là, nous venons de l'entendre à la télévision allemande, je crois que c'est son vrai nom, vous me corrigerez si je me trompe, son nom de plume, Sébastien Hafner, qui est employé, mais peut-être fais-je là une erreur. En tout cas, il n'a pas encore publié Histoire d'un Allemand. Et Histoire d'un Allemand, ce sera publié après sa mort. Ça a été trouvé. C'est aussi une histoire de manuscrits trouvés. C'est troublant le nombre de manuscrits trouvés que les drames historiques génèrent.
Oui, d'autant plus que bien que ce soit un écrit autobiographique, ça n'est pas un journal intime. C'est-à-dire que c'est un livre qui lui avait été commandé en 38, parce que Quand il débarque en Angleterre, il n'a pas de travail, pas de moyens. En plus, il est avec sa petite amie qui est enceinte, qui va épouser bientôt, et donc il a charge d'âme. Et un éditeur allemand, Warburg, lui commande cet ouvrage.
Et on ne sait anglais pas ou allemand? Ah, c'est en Angleterre.
Allemand,
d'accord.
En Allemagne.
Oui, d'accord.
Et puis probablement du fait de la guerre, enfin, ça, je ne connais pas les détails de l'affaire, mais cette publication ne se fait pas et Hafner ne cherchera plus à publier ce livre qui sera publié après sa mort donc, par ses enfants, beaucoup plus tard, puisqu'il a eu une très longue vie, hein, il est mort à 92 ans.
Il publie plein d'autres choses, mais pas ça. C'est ça qui est étonnant. Il publie plein de livres, mais pas celui-là. Pourquoi Philippe de Lara ?
Parce que très vite à son arrivée en Angleterre, il s'engage, mais si je puis dire, il s'engage à partir de l'Angleterre, puisqu'il se met à écrire un livre en anglais. Il apprend l'anglais à marche forcée et il écrit un livre qui s'appelle Allemagne, Jekyll et Hyde, mm-hmm. Et qui est en fait un livre extraordinaire.
Ah.
C'est dommage qu'il n'ait pas été traduit en français, dont le but, c'est, mais qui est très éloquent, très précis, très documenté, il veut convaincre le public anglais, qui ne l'est pas totalement à cette époque-là, et même les élites gouvernementales, que non seulement il faut faire la guerre à l'Allemagne nazie, mais qu'il faut concevoir cette guerre comme une guerre totale. Il faut abattre ce régime, qu'il n'y a pas de compromis possible. Ce n'est pas comme une guerre qui se termine, ça ne sera pas une guerre qui se terminera par un traité de paix. Il faut se préparer à une guerre dont le but ne peut pas être autre chose que la destruction du régime nazi. Mmh. Et ce livre a un succès phénoménal en Angleterre.
Oui.
Churchill le trouve remarquable et demande à tous ses ministres et aux députés de le lire. Et en fait, c'est ce tournant du livre anglais qui fait que je pense qu'il laisse de côté son histoire. C'est très curieux. C'est le symétrique inverse d'Histoire d'un Allemand. C'est-à-dire, Histoire d'un Allemand, comme il dit au début, c'est un duel personnel avec ce que l'Allemagne est en train de devenir sous ses yeux. Et Jekyll and Hyde, c'est un livre totalement impersonnel qui ne met pas en jeu son histoire personnelle, ses idées à lui. C'est un pamphlet sur le nazisme et la nécessité de le combattre. Et il veut en convaincre les Anglais, alors que, comme il dit dans cette interview, qui en fait a un rapport très direct avec Histoire d'un Allemand, bien que le livre ne sera publié que 30 ans plus tard, quand il dit « je voulais rester digne vis-à-vis de moi-même ».
Oui, ce qui est troublant, c'est que le livre du dégagement de sa pensée, de son regard, c'est-à-dire Histoire d'un Allemand, il le laisse de côté, alors que pour nous, par exemple, dans les questions que nous nous posons ce matin, c'est fondamental. Et il laisse au premier plan des livres d'engagement, en fait, aux côtés des Britanniques. C'est ça qui est intéressant, ce geste. Vous venez de le dire, ils voulaient convaincre, etc. Les Britanniques, ils se rangent à leur côté. C'est comme si c'était plus important de son vivant que de laisser cette trace d'un dégagement intérieur face à la société nazie. Et ça, ça me fait vous interroger, Frédéric Joly, à présent, qui est près de moi en studio. Vous avez écrit un livre sur Victor Klemperer, dont nous allons parler dans un tout petit instant. Mais je me suis dit, en lisant votre livre, que vous auriez pu écrire un livre sur Sebastian Haffner.
Oui, c'est très juste. Oui. Et il y a des points communs dans les démarches et les méthodologies, la sensibilité. Un point commun important pour compléter le propos de Philippe Delara, c'est tous deux ont su se faire historien aussi pour tenter de restituer les continuités entre le régime nazi et les régimes qui l'avaient précédé. Haffner a notamment écrit un ouvrage qui s'intitule « De Bismarck à Hitler », qui d'ailleurs a été publié à la découverte au début des années 90, qui malheureusement est épuisé, dont tout le propos consiste à dire que le nazisme n'était pas né de rien.
Oui.
Et Victor Klemperer a fourni le même effort. Il a fait un travail de philologue, mais il a su se faire aussi historien. C'est un des points communs parmi de nombreux autres, en effet. Ils partagent beaucoup. On peut dire que tous deux, sur le plan de la personnalité, se situent aux antipodes d'un Köstler. Köstler est un aventurier, c'est une figure romanesque. Sa vie est un roman. Haffner, en 1933, est un magistrat stagiaire, fils de magistrat de la bourgeoisie protestante. Oui. Il ne se destine pas, a priori, à intervenir dans la vie publique.
Et il est professeur d'université à Dresde. D'un moment, je ne suis pas certaine de la discipline qu'il enseigne à ce moment-là. Là, vous parlez de Haffner, hein,
oui,
le juriste.
Klemperer, lui, enseigne la philologie.
Oui.
On dirait aujourd'hui qu'il est linguiste.
Et il a 30 ans de plus que Haffner, c'est pas du tout la même génération.
Il est plus âgé, il a 20 ans de plus que Haffner. Et en 1933, il a 52 ans.
Lui, il reste en Allemagne, on est d'accord. Mais Dresde, il se sent comment un peu, déjà un peu à l'écart dans sa manière d'être un universitaire, peut-être
Je dirais que jusqu'en 1933, il ne nourrit pas un sentiment de marginalisation fort. Mais par contre, dès le printemps 1933, en tant que juif, il est naturellement mis d'office à la retraite de l'université. Et très très vite, évidemment, les vexations et ensuite la persécution vont débuter. Alors même qu'il est marié à une protestante et qu'il bénéficie donc d'un statut un petit peu particulier, ce que les nazis appelaient le mariage mixte, ce qu'il a, d'une certaine manière, sauvé au moins les premières années. Je dirais, en vérité, sa survie miraculeuse, il la doit surtout à la destruction de la ville de Dresde en 1945. Mais ce statut, disons, lui a permis de tenir jusqu'à la destruction de Dresde.
Et il écrit ce qu'il entend, il décortique la langue des Allemands juste avant le nazisme, puis sous le nazisme, il essaye de saisir ce qui se passe dans la langue. Et voici ce que je vous propose. Nous allons entendre ensemble, successivement en vérité, un texte de Sebastian Haffner, extrait d'Histoire d'un Allemand, et un texte de Victor Klemperer, La langue du Troisième Reich.
Denn mehr kann ein Volk nicht tun, als dass jeder, der kämpfen kann, kämpft, und jeder, der arbeiten kann, arbeitet.
Le soir, réunis dans cette même cantine, nous entendîmes Hitler tonitruer à la radio, tandis que nous fixait son grand portrait boudeur. Les SA tenaient la vedette, riant et approuvant quand il le fallait, aussi bien que des députés du Reichstag. Debout ou assis, nous étions entassés dans la salle, et de ce manque d'espace émanait une terrifiante inéluctabilité. Ces paroles qui sortaient de la radio on leur était livré plus que d'habitude, ainsi coincé entre des voisins dont on ne connaissait pas au juste les opinions. Certains étaient manifestement enthousiastes, d'autres avaient un regard impénétrable. Un seul parlait, l'homme invisible de la radio. Quand il eut fini, le pire se produisit. La musique donna le signal. Deutschland über alles. Et tous levèrent le bras. Certains peut-être hésitèrent, comme moi. C'était une terrible humiliation. Mais voulions-nous, oui ou non, passer notre examen ? Pour la première fois, je fus envahi par un sentiment aussi violent qu'un goût dans la bouche. Cela ne compte pas. Ce n'est pas moi. Cela ne vaut pas. Et animé de ce sentiment, je levai le bras moi aussi et le maintins tendu en l'air à peu près 3 minutes. Le temps que durèrent l'hymne national et le Horstfesserlied. La plupart chantaient d'une voix énergique et vibrante. Je remuais un peu les lèvres, faisais semblant de chanter comme on le fait à l'église pour les cantiques. Mais tous nous nous dressions, le bras tendu, devant cette radio sans regard qui soulevait nos bras comme un marionnettiste, celui de ses marionnettes, chantant ou faisant comme si. Chacun une Gestapo pour son voisin.
Des mots nouveaux font leur apparition, ou des mots anciens acquièrent un nouveau sens particulier, ou de nouvelles combinaisons se créent, qui se figent rapidement en stéréotypes. La SA s'appelle à présent, en langue soutenue, et la langue soutenue est constamment de rigueur, l'armée brune. Les juifs de l'étranger, en particulier les juifs français, anglais et américains, sont appelés aujourd'hui à tout bout de champ les juifs universels, Weltjuden. Tout aussi fréquemment est utilisée l'expression « judaïsme international »,« internationales Judentum », dont « juif universel » et « judaïsme universel »,« Weltjudentum », doivent être la germanisation. Mais c'est une germanisation suspecte. Dans et de par le monde, les juifs ne se trouvent donc plus qu'à l'extérieur de l'Allemagne ? Et où se trouvent-ils à l'intérieur de l'Allemagne ? Les juifs universels font de la propagande en diffusant des atrocités, « Greuel Propaganda », et répandent des atrocités inventées, « Greuel Märchen ». Et quand nous, ici, nous racontons le moins du monde ce qui se passe quotidiennement, c'est nous qui faisons de la Greuel Propaganda et sommes punis pour cela. Pendant ce temps se prépare le boycott des commerces et des médecins juifs. La distinction entre « arien » et « non-arien » règne sur toute chose. On pourrait faire un lexique de cette nouvelle langue. Dans un magasin de jouets, j'ai vu un ballon pour enfants sur lequel on avait imprimé une croix gammée. Un tel ballon aurait-il sa place dans ce lexique ?
Merci à notre réalisateur Nicolas Berger pour ce montage avec la musique nazie et le son de Hitler que vous avez entendu derrière les mots de Sébastien Hafner d'abord dans Histoire d'un Allemand et ensuite c'est Jules Barbier de France Culture qui lisait avec je crois une très bonne prononciation de l'allemand, merci, le texte de Victor Klemperer, La langue du Troisième Reich. Frédéric Joly, se dégager, j'ai beaucoup dit que c'était voir, commencer à voir, mais c'est surtout pour Klemperer et peut-être aussi pour Hafner d'ailleurs, écouter
et lire. Il y a Klemperer est comme je l'ai dit, un spécialiste de la culture française du XVIIIe siècle. C'est un grand lecteur. Il lit Montesquieu, Montaigne. Il travaille sur Voltaire et Rousseau en 1933. Et une des premières phrases qu'il écrit dans son journal en 1933 est consacrée justement à l'art de lire. Il dit « L'art de lire va redevenir un art absolument fondamental. Mm-hmm. » Il lit la presse. Et comme vous venez de le dire, il écoute. Il écoute énormément. Il écoute les conversations, la radio. Il écoute ce que les gens disent dans le tramway, dans les petits commerces, dans la rue. Et très vite, il va se rendre compte qu'une phraséologie élaborée de toutes pièces, la phraséologie nazie, qu'il va intituler la LTI, la langue du Troisième Reich, se substitue avec une vitesse réellement foudroyante à la langue commune. Un phénomène de contamination. L'allemand, semaine après semaine, se voit quasiment effacé par cette phraséologie et parce qu'il est linguiste, parce qu'il sait qu'il y a un pouvoir performatif de la langue, parce qu'il sent que ce langage est conçu pour croire et faire croire, parce que ce langage est profondément un langage de croyance, il a tout de suite la préscience que ces mots vont se traduire en actes et qu'il ne va pas survivre à cela. Et donc, son ambition est tout simplement de témoigner. Il va décider de témoigner de ce qui est en train de se passer. De fait, sa survie est miraculeuse. Le sentiment qu'il avait de ne pas pouvoir en réchapper était parfaitement justifié. Et il va donc témoigner de ce processus de 1933 à 1945, c'est-à-dire jusqu'à la chute du régime nazi. Et au lendemain de l'effondrement du régime nazi, il se lancera dans l'écriture de son grand livre qui s'intitule LTI et qu'il va écrire à partir de l'immense matériau consigné dans les journaux.
Et alors lui, il publie son journal, son manuscrit?
Alors,
parce qu'il y a plein de problèmes de manuscrits dans les autres cas que nous avons évoqués ce matin, Sébastien Hafner et Arthur Koestler. Qu'en est-il pour Victor Klemperer?
Alors, LTI, cet essai qu'il va écrire en 1945 et qu'il va écrire vite, en l'espace d'un an et demi, sera publié rapidement.
Et il en est donc parfaitement d'accord. Ce geste de publier, lui, est important?
Absolument. C'est quelque chose, même si c'est, je dirais, au regard de l'état de l'édition et de la presse en cette seconde moitié des années 40 en Allemagne, en vérité, publier un livre n'avait pas grande signification puisque le nombre de lecteurs était extrêmement modeste à ce moment-là. Mais c'était tout de même un geste qui comptait, et il le souhaitait. Par contre, le journal, cet immense journal tenu 12 années durant, ne sera publié que des décennies plus tard.
Ah d'accord, il faut bien distinguer.
Il faut bien distinguer les journaux et LTI.
Et vous pourquoi avez... Pourquoi l'intime où se loge pour nous? Parce qu'aujourd'hui c'est publié, n'est-ce pas?
Oui,
c'est un immense livre. Enfin, c'est quelque chose de très important au XXe siècle pour analyser le langage, d'ailleurs, dans d'autres régimes, même s'il faut éviter le point Godwin, de toujours revenir au nazisme pour dénoncer des dérives langagières et politiques avec des phénomènes d'autoritarisme. Il faut éviter cela, mais il n'empêche que ça nous a donné une manière de réfléchir à la langue. Et il n'a pas voulu publier le gros œuvre, si j'ose dire.
Le journal de Klemperer est sans doute un des documents les plus importants, peut-être le plus important, sur la vie quotidienne sous le Troisième Reich. Et c'est par ailleurs la matrice de LTI. Donc et à mon sens, c'est une expérience de lecture qui est plus forte encore que celle de LTI. La lecture des journaux est absolument...
Des journaux personnels
de Klemperer est absolument fascinante parce que vous y voyez un homme dont le quotidien au fil des semaines et des mois devient de plus en plus atroce et invivable, redoublé de lucidité et d'acuité. Et il y a cette espèce de double processus de rétrécissement de l'existence et de déploiement des facultés intellectuelles qui est complètement sidérant.
Il est envahi par l'objet qu'il étudie. Il est persécuté quasiment par cette langue qui est partout, qu'il ne supporte pas.
Et son analyse est pour lui un moyen de survivre. C'est à travers l'analyse de la langue qui est en train de tuer les siens et de l'étrangler qu'il va survivre. Donc c'est quelque chose de très impressionnant, les journaux de Klemperer. LTI n'a pas cette force, cette densité existentielle. LTI est le condensé analytique de cette expérience.
Alors qui trouve le texte et le publie? Y avait-il un accord tacite? A-t-il laissé un mot avant de mourir pour dire « d'accord, on peut publier » parce qu'il n'est plus là et que la souffrance que renferme aussi ce journal, après sa mort d'accord, de son vivant, non?
Klemperer, en 1945, est un homme qui a perdu, je dirais, confiance en le monde. Il y a quelque chose chez lui de profondément désespéré. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prend conscience que dans la partie de l'Allemagne qui est sous occupation alliée, le processus de dénazification ne sera pas véritablement mené à son terme, ce qui le désespère, et qui, dans le même temps, à Dresde, qui fait partie de cette Allemagne sous occupation soviétique, assiste à l'apparition de ce qu'il appelle la LQI, la langue du Quatrième Reich, qui est en fait la langue de l'URSS, de l'Empire communiste, qui, à ses yeux, est tout aussi toxique et nocive que la LTI. Donc l'année 45 est pour lui l'année de deux constats tout à fait désespérants. Et c'est un homme âgé, profondément usé par ces 12 années de persécution, et qui d'une certaine manière, va se, une fois LTI écrit, va se retirer sur ses propres recherches très, très académiques, dans une sorte d'exil intérieur. Il adhérera, et ça c'est quelque chose de troublant et de complexe, il adhérera au communisme en 45. Il adhérera au communisme, sans doute, à mon sens, pour des questions profondément identitaires. C'est quelqu'un qui ne s'était jamais considéré comme juif, qui se considérait avant tout comme un Allemand, et en 1945, il ne peut plus se considérer comme un Allemand. Il est dans une forme d'impossibilité d'affirmer une quelconque identité positive. Et d'une certaine manière, je crois, l'adhésion à l'internationalisme communiste sera peut-être un moyen pour lui de trouver une nouvelle identité, sans se faire aucune espèce d'illusion sur le communisme, puisqu'il verra bien que la fameuse LQI, cette langue du Quatrième Reich, n'a rien à envier à celle du Troisième.
Vous écoutez la symphonie numéro 1, essai de Requiem de Carl Amadeus Hartmann. Alors, Carl Amadeus Hartmann est né en 1905 comme Sébastien Haffner. Il est resté en Allemagne, il a pratiqué ce qu'on a beaucoup appelé après l'exil intérieur, dans une grande détresse. Il a écrit beaucoup de musique, dont cette pièce en 1936, qui ne sera jouée bien évidemment qu'après la guerre, en 1948 à Francfort-sur-le-Main. Merci beaucoup Phil Cassoar, merci Philippe Delara, merci Frédéric Joly. la distance ne permet pas une polyphonie aussi dense que je l'aime, mais vous avez été tous les trois formidables pour nous parler de Sébastien Haffner, de Victor Klemperer et de Arthur Koestler ce matin. Les références précises de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Nassim El-Kabli. Aujourd'hui, il vous parle de démonter le complotisme avec le philosophe écossais du XVIIIe siècle, David Hume.
Le fil philo.
Les années Covid, souvenez-vous, certains complotistes disaient que le ministère de la Santé était de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la nocivité des vaccins. D'autres allaient jusqu'à soutenir que le vaccin était introduit dans le corps du vacciné, une puce informatique pour l'espionner. Le complotisme consiste à expliquer tout événement par l'action secrète et délibérée d'un groupe d'individus malfaisants agissant de manière concertée. C'est une croyance, et une croyance fausse. L'Écossais David Hume, philosophe du XVIIIe siècle, peut nous éclairer sur le fonctionnement des croyances, qu'elles soient raisonnables ou délirantes. Car Hume distingue plusieurs types de croyances. Pour Hume, tout notre savoir repose sur notre expérience ou sur le témoignage d'autrui. On ne doute jamais de sa propre expérience, mais on doute facilement de l'expérience d'autrui et de son témoignage quand il ne va pas dans notre sens. Surtout, le complotiste se méfie de l'analyse des experts. Il préfère le témoignage de quelqu'un qui prétend avoir vu ou entendu quelque chose que personne d'autre que lui n'a observé. Par exemple, que des dizaines de personnes seraient mortes juste après avoir été vaccinées. En général, la personne qui vous raconte cela, et qui y croit, ne connaît pas personnellement le cas en question, mais elle connaît quelqu'un qui connaît le cas. Le prétendu témoignage se dissout, et la croyance ne repose plus sur rien. Hume ajoute un point très important, c'est qu'il faut prendre en compte l'idée de probabilité. L'homme ne peut pas vivre sans respirer, personne n'en doute, parce que l'expérience est uniforme et constante sur ce point. Quand un événement est rare et inhabituel, l'imagination s'en donne à cœur joie. Si 100 personnes ont observé quelque chose et qu'une seule personne dit ne pas l'avoir vu, il faut, nous dit Hume, choisir le plus probable. Il est plus probable qu'une personne se soit trompée que 100. Mais raisonner en termes de probabilité demande de l'attention et de la rigueur. Or, les êtres humains aiment les contes de fées, la science-fiction et les romans, les récits qui captivent l'imagination. Un récit complotiste est beaucoup plus captivant et plus facile à comprendre qu'un raisonnement scientifique. Il se répand d'ailleurs beaucoup plus vite dans la société que ne se diffuse la connaissance scientifique. Le complotisme a des racines psychologiques et des racines sociales. Psychologiquement, c'est le goût de la fiction, plus intéressante que la plate réalité, c'est le désir de ne pas se faire dicter par le système ce que l'on doit croire ou pas croire. Et l'affabulateur finit par croire à ses propres fables. Socialement, tout discours complotiste est d'abord un récit, une bonne histoire que l'on raconte, soit pour convaincre autrui, soit pour communier avec ceux qui partagent le même point de vue. Et si le complotisme était d'abord une marque de précipitation et de paresse ? L'explication des événements par un complot fomenté par des intérêts obscurs et puissants, c'est une explication rapide et courte, un usage sommaire et paresseux du principe de causalité. Le complotiste prétend avoir trouvé les vraies conséquences de la vaccination, la vraie cause de la crise des subprimes de 2007, voire la vraie cause de la Révolution française. Dans tous les cas, un complot des puissants. À l'assurance du discours complotiste, inaccessible à la critique, préférons la recherche de ce qui est le plus probable et réservons la fabulation pour l'écriture de romans ou de scénarios pour le théâtre ou le cinéma.
Merci Nassim El-Kabli. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Carla Michel, Nassim El-Kabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.